Actu SF, les podcasts.
Bon, bah, puisque tout le monde semble être à peu près installé, je voulais d'abord vous remercier d'être venus aussi nombreux pour cette conférence malgré l'heure tardive et à l'heure du repas. Donc bienvenue à tous pour cette table ronde avec un panel de très très grand luxe. Donc vous avez ce soir pour nous parler d'une part à l'extrême droite Gérard Klein. Je ne sais pas si c'est utile de le présenter. Gérard Klein, c'est bien sûr l'homme orchestre de la science-fiction française, auteur d'un très grand nombre de romans marquants, mais aussi un éditeur majeur. C'est le créateur de la collection Ailleurs et Demain, qui est probablement la plus prestigieuse des collections de science-fiction. C'est aussi l'auteur d'un nombre innombrable de préfaces. Alors, je vois beaucoup de visages assez jeunes, mais pour les gens de mon âge qui ont passé la cinquantaine, un très grand nombre d'entre nous ont découvert la science-fiction d'une façon générale dans les préfaces de Gérard, mais aussi bien d'ailleurs les problèmes écologiques. Je crois bien que c'est dans des préfaces de la grande anthologie de la science-fiction où Gérard Klein a été l'un des tout premiers à publier des textes portant sur le changement climatique et sur les problèmes écologiques en général, que j'avais réalisé à 13 ou 14 ans, toute l'importance du problème. Mais Gérard, c'est aussi un économiste. On a fait une table ronde tout à l'heure sur le corps et l'économie, où on s'est rappelé que c'est par exemple lui qui avait inventé le plan épargne logement. Donc c'est quelqu'un qui est aussi capable de développer des solutions assez concrètes. Et par la même occasion, c'est aussi un prospectiviste. Donc exactement ce qu'il nous faut dans ce panel. Au centre, Christian Desrouillers, là encore quelqu'un qu'on ne présente plus, qui a plus d'une vingtaine de romans à son actif, auteur jeunesse très connu, mais aussi auteur de science-fiction adulte. Donc, je sais pas s'il faut citer le titre de Lanmeur, par exemple, qui est probablement ton œuvre la plus connue pour les adultes, qui a été réédité il y a 4 ou 5 ans et qui depuis a eu quelques suites. Donc c'est un univers extrêmement riche, mais c'est aussi quelqu'un à multiples casquettes. Christian a été dans le civil un haut fonctionnaire, donc c'est quelqu'un qui a aussi l'expérience de l'interaction avec les puissants, avec les politiques et la confrontation d'idées parfois compliquées avec les réalités de l'administration. Et puis l'extrême gauche, notre président à tous, le président du Festival des Utopiales, Roland Lehoucq, astrophysicien au CEA, mais aussi grand vulgarisateur devant l'Internet. Et aussi d'ailleurs écrivain à 16 heures. Je crois que tu as au moins publié un roman de science-fiction coécrit avec Claude Ecken. Et puis donc allons tout de suite dans le vif du sujet puisqu'il est déjà quasiment 20h12. Je suis tenté de commencer par Roland pour te demander une rapide mise au point sur les éléments techniques du problème du changement climatique et en particulier sur ce qu'il a fallu mettre en place en termes de méthodes nouvelles. On sait tous que le GIEC a été créé pour envisager ce genre de problème, qu'il a fait un travail extraordinaire qui lui a valu un prix Nobel, mais curieusement un prix Nobel de la paix et non pas un prix Nobel de science. Est-ce que tu pourrais nous résumer la difficulté de ce problème du point de vue scientifique?
Alors, la question du changement climatique, c'est une question qui est ancienne. Hein. On a depuis très longtemps imaginé, on s'en remontait à Arrhenius, à des très anciens de fin du 19e siècle, chimiste suédois, compris que le fait de brûler des choses, ça émet du CO2, ça c'est de la chimie élémentaire, et que les humains brûlent beaucoup de choses. Alors ça, on s'en est rendu compte pendant un certain temps avec le charbon, le pétrole, le gaz, le bois avant. Pour le bois, il y a une problématique un tout petit peu différente avec le charbon, le gaz et le pétrole qui sont du fossile, c'est-à-dire des sources d'énergie carbonée dont la combustion dégage du CO2, mais qui sont issus de végétaux morts il y a très longtemps dans le passé, à l'époque du carbonifère, quand se sont formées ces grandes masses carbonées dans le sous-sol de la Terre. Et qu'il y avait la possibilité, peut-être, qu'effectivement, si trop de carbone était mis dans la Terre, ça modifierait le climat, parce qu'on sait que le gaz carbonique, qui est un des composants de l'atmosphère de la Terre, qui n'est pas le composant majoritaire, loin s'en faut, le composant majoritaire, c'est le dioxygène et le diazote d'abord, à peu près 79% de diazote, 21% de dioxygène, et dans le zéro, qui n'est pas tout à fait zéro, il y a tout un tas de petites choses, dont du gaz carbonique, à la hauteur actuellement de 420 parties par million, ça veut dire 420 millionièmes du volume de l'atmosphère est constitué de gaz carbonique. Cette quantité semble très petite, et si ce gaz carbonique a été considéré rapidement de façon si importante, c'est que Ce qui fait que notre surface de la Terre est habitable par l'humanité, par les espèces de surface, avec une température moyenne typique de l'ordre de 15 degrés Celsius, c'est la température moyenne de la surface de la Terre, c'est parce qu'il y a un effet de serre, c'est-à-dire une atmosphère qui est transparente à la lumière visible et opaque à la lumière infrarouge. La lumière visible, pour faire gros, traverse l'atmosphère librement, quasiment librement. Elle est bien un peu diffusée ou absorbée par des aérosols ou diffusée par les nuages et par les molécules atmosphériques, absorbée par le sol qui est chauffé, qui rayonne en lumière infrarouge. Mais cette lumière infrarouge n'est pas librement, ne traverse pas librement l'atmosphère de la Terre. Autrement dit, ça rentre et ça ne sort pas. Plus exactement, ça rentre et ça sort, parce que la Terre est en équilibre thermodynamique avec sa source d'énergie qui est le Soleil, et que cet équilibre est modifié. Une Terre sans atmosphère et une Terre avec atmosphère, ça n'est pas la même chose. L'équilibre est modifié par l'atmosphère. L'atmosphère est opaque à la lumière infrarouge, essentiellement à cause de la vapeur d'eau. L'effet massif, c'est la vapeur d'eau, et le gaz carbonique. Mais le gaz carbonique est en très petite quantité. Il est très efficace pour absorber le rayonnement infrarouge. Des petites variations du gaz carbonique vont faire des grosses variations dans la capacité d'absorption de la lumière infrarouge de l'atmosphère. Et ces petites variations, on est à 300, j'ai dit 420 parties par million. L'ère pré-industrielle, c'était 240 parties par million. Donc on a, pas doublé, une fois et demie, une grosse fois et demie, multiplié par une fois et demie, la teneur en gaz carbonique dans l'atmosphère de la Terre, et donc modifié l'équilibre radiatif de la Terre. Elle reçoit de la lumière du Soleil, elle en réémet autant vers l'extérieur, si elle est à l'équilibre, elle en réémet autant vers l'extérieur en lumière infrarouge. Seulement, la façon dont cette énergie va se distribuer n'est pas la même selon qu'on ait ou pas une atmosphère. Sans atmosphère, la température de la Terre serait plutôt moins 18 degrés Celsius, température moyenne. Avec atmosphère, 15 degrés Celsius en augmentation régulière, parce que la teneur en gaz carbonique, l'opacité infrarouge de l'atmosphère, le gaz carbonique, le méthane aussi, qui est un gaz sous forme de trace, mais qui est un absorbeur infrarouge bien plus efficace encore que le gaz carbonique. Ces gaz-là, les variations dues à des causes humaines sont très importantes. Il y a aussi des causes naturelles de variation de la teneur en CO2 atmosphérique, mais il y a une variation à ces causes naturelles, se superpose une cause humaine. Alors au début, on constate que ça augmente. Il faut encore savoir pourquoi ça augmente. Il y a plein de raisons naturelles. Est-ce que c'est bien l'humanité qui fait ça? Avec quelle ampleur? Il a fallu convoquer des climatologues. Ça n'existe pas, la profession de climatologue. Il y a des gens qui étudient le climat par leur discipline, qui peut être l'océanographie, la glaciologie, les sciences de l'atmosphère, la physico-chimie de l'atmosphère, etc. Donc il y a tout un tas de disciplines, la vulcanologie pour les émissions issues des volcans. Il y a tout un tas de disciplines qui étudient ou qui, par leur biais, apportent leur pierre à la compréhension de l'évolution de la composition atmosphérique, notamment par ces gaz à effet de serre, qui ont fait coalescence, qui se sont regroupés, notamment au sein du GIEC. Il y avait des travaux qui étaient épars, mais le GIEC, c'était l'idée de pouvoir rendre ces travaux communs, de regrouper les gens de disciplines très différentes pour faire un objectif commun de ces études atmosphériques et de quantifier à la fois les changements climatiques, c'est-à-dire de vérifier à quel point il y avait des effets de ces variations de CO2, des effets sur le climat, des effets sur l'environnement, des effets sur les glaces, des effets sur les animaux, sur la biosphère, etc., sur les océans, l'acidification des océans, etc., et de le quantifier et de valider l'hypothèse, ce sont les humains qui sont à l'origine de ça. Donc il a fallu mettre un certain temps, alors qu'on avait dans l'idée que les humains pouvaient être à l'origine de ça depuis bien longtemps, on constate qu'il y a cette augmentation. Est-ce que les humains sont à l'origine? Alors maintenant, la situation, le consensus scientifique au sein du GIEC, et même au-delà, c'est sans appel, les humains sont responsables de l'augmentation massive du gaz à effet de serre, CO2 et autres, mais CO2 en particulier, des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et cette augmentation a des conséquences mesurables en termes de variations climatiques et de plein d'autres conséquences, mais notamment d'augmentation de la température moyenne de l'atmosphère. Donc ça, c'est la situation scientifique, si je veux dire. Enfin, grossièrement résumé, il y a évidemment un milliard de choses à dire dont je ne suis pas spécialiste. Mais enfin, voilà la situation grossièrement résumée. Il a fallu l'équivalent de... Voilà, le GIEC, c'est les années, disons, 90, quelque chose comme ça. Il a fallu, vous voyez, presque 20 ans... à peu près 20 ans, pour en arriver à une conclusion ferme et définitive, sans aucun débat, sans qu'il n'y ait plus de débat parmi les scientifiques, sans aucun débat. Il y a eu des débats, des discussions. Vous imaginez, le GIEC, c'est des milliers de personnes. Je connais bien Valérie Masson-Delmotte, qui est responsable de la rédaction d'un chapitre du rapport du GIEC qui font 3000 pages. Un chapitre, c'est des centaines de pages. C'est des milliers de contributeurs dont il faut agréger un consensus. Donc, ça ne veut pas dire que c'est la vérité, ça veut dire que ça fait consensus parmi tous les gens qui rédigent ce chapitre. Et ce consensus, eh bien, il dit que ce que j'ai annoncé. Donc, on n'est plus dans la discussion de savoir peut-être que si ma tante en avait... Non. La température augmente sur Terre. C'est causé par une augmentation de la teneur en CO2 de l'atmosphère, notamment de méthane, mais ils ont deux gaz à effet de serre dont le CO2 est le représentant emblématique. Et cette augmentation de la teneur en CO2 est due aux activités humaines. Ça fait plus long d'une ambiguïté. Maintenant, on fait quoi? Voilà, la question c'est on fait quoi?
Gérard, je suis tenté de me tourner vers le prospectiviste. Est-ce que ces constats du GIEC et les faisceaux de scénarios plausibles qu'ils nous donnent sont de la prospective? Est-ce que c'est suffisant? Ou est-ce qu'il faut encore ajouter quelques ingrédients?
Non, il n'est pas nécessaire d'ajouter quoi que ce soit. Les résultats du GIEC et les climatologues sont parfaitement clairs. La question qui se pose véritablement, c'est si le changement climatique est de façon générale une politique écologique raisonnable et compatible avec la démocratie. Ma réponse est non. Et ma réponse est non parce que, en tant que prospectiviste, j'ai justement eu une assez longue expérience de ce genre de questions. Qu'est-ce qu'un prospectiviste, climat ou autre sujet, essaye de faire? C'est d'entrevoir différents possibles au-delà de 10 ans, jusqu'à 30 ou 50 ans, ce qui est tout à fait le problème, l'ordre de grandeur du problème climatique. Or, une démocratie, elle a une durée d'espérance, un parti politique au pouvoir a une durée d'espérance de 5 ans. Donc, ils ne veulent jamais entendre parler de questions qui vont au-delà de 5 ans, de 10 ans, de 20 à 30 ans, ça ne les intéresse pas. Donc la question est, et c'est une question grave, c'est une question qui m'inquiète énormément, est-ce que la lutte, de manière générale, pour une amélioration écologique et le changement climatique est compatible avec la démocratie telle que nous la connaissons? Si on regarde la situation en France, aux États-Unis, en Allemagne, enfin dans un certain nombre de pays civilisés, la réponse est clairement non.
Christian, est-ce que c'est aussi ton expérience qui est difficile d'amener les politiques à s'intéresser à des choses à long terme?
Alors, moi, je serais moins sévère sur ce point de vue. Il s'y intéresse, oui. En revanche, je suis tout à fait d'accord avec Gérard. Il n'y a pas que ça. Il y a d'autres problèmes. Il y a le chômage. Écoutez la radio, vous verrez qu'ils ont pas mal de problèmes. Et donc, on va résoudre on va agir sur ce qui est le plus immédiatement urgent. Entre le gars qui cherche du travail parce qu'il a besoin d'avoir sa paye à la fin du mois et celui qui se dit dans 50 ans j'aurai peut-être un bananier dans mon jardin, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Évidemment, on va essayer de se tourner vers le chômeur parce que l'électeur c'est le chômeur. Donc, l'autre aspect aussi dans la décision politique. C'est quel va être le discours qui va aller avec. Qu'est-ce qu'on va faire comme communication autour de ça? Est-ce que c'est porteur? Donc aujourd'hui, ce que je constate, moi, c'est que on commence à parler du changement climatique sur le mode catastrophiste. Parce qu'après tout, c'est aussi une question à se poser. Est-ce que c'est pas bien on pourrait se dire, on va avoir effectivement toujours de beaux étés, on va bronzer, ça va être mieux. C'est pas vrai du tout, hein. Ça se passe pas comme ça, mais ça pourrait être un raisonnement qu'on pourrait tenir. Mais. Donc aujourd'hui, on commence effectivement à bien persuader l'opinion qu'il va falloir faire quelque chose. On est dans la communication là pour le moment, parce que en réalité, on fait pas grand-chose. Si on prend l'accord de Paris, si on regarde bien les décisions qui ont été prises, c'est en gros, il va falloir faire quelque chose. Donc, on va aller 2 degrés. Mais si vous ne vous faites pas, il n'y a pas de sanction, les gars. Ce n'est pas prévu. Et puis, il va falloir financer. Alors, tout le monde ne va pas payer de la même façon. Mais il n'y a pas de clé de répartition. Donc, autrement dit, dans 10 ans, on sera encore à se référer à l'accord de Paris pour dire qu'est-ce qu'on va faire. Donc là, je souscris tout à fait avec ce qu'a dit Gérard. Les démocraties ne sont pas faites pour traiter des crises à long terme.
Est-ce que c'est un problème de plomberie démocratique et de façon de faire de la politique, ou est-ce que c'est la démocratie elle-même qui est incompatible et qu'il faut passer à d'autres choses?
C'est-à-dire c'est les formes que la démocratie ont prises depuis très longtemps, c'est-à-dire l'idée qui a été et que je continue à considérer comme entièrement justifiée, de pouvoir changer régulièrement de tendance politique, de majorité. Donc on a décidé que tous les 5 ans ou tous les 7 ans, ou rarement sur des durées plus longues, tous les 8 ans si on considère les 2 fois 4 ans des États-Unis, on remet le pouvoir en jeu. Seulement, en même temps, ça offre un butoir à ceux qui veulent se faire réélire, c'est-à-dire tout ce qui va se situer au-delà de cette période de temps, c'est pas immédiat, c'est pas important, c'est pas, on va pas s'en occuper. Et enfin, croyez-moi, j'ai une certaine expérience de ce genre de questions dans mes relations autrefois avec des hauts fonctionnaires et avec des politiques, et c'est de ce point de vue-là catastrophique. C'est, ils comprennent très bien, ils ne sont pas idiots, ils comprennent très bien, ils savent très bien ce qu'il faudrait faire dans la plupart des cas, mais ils ne veulent pas le faire. Je regardais la télévision juste avant de venir ici. Il y a eu une augmentation très modérée du prix des carburants, enfin de l'essence et du gasoil. L'extrême droite et la plus grande partie de l'extrême gauche, de la gauche, enfin c'est-à-dire jusqu'à 90% de l'opinion, vont se livrer, disent-ils, on va voir ce qui va se passer, à l'expérience de blocage à cause de cette augmentation des prix, qui n'est pas du tout liée d'ailleurs fondamentalement aux taxes, mais qui est liée à l'augmentation mondiale du prix du pétrole. Bon. Donc on voit bien qu'il y a, là, il y a un refus d'accepter l'idée qu'une manière ou d'une autre, il va falloir limiter la consommation de ce genre de produits qui libère du CO2, comme le disait Glauque. Derrière la démocratie, il y a l'opinion, et la démocratie dépend de l'opinion. Comment faire autrement que pour traiter des questions à long terme? Dans d'autres domaines, enfin, le système de retraite, j'ai étudié il y a extrêmement longtemps, nous avons rencontré exactement le même problème. Il y a eu un refus de réflexion et de prise de décision impliquant l'avenir lointain, c'est-à-dire l'avenir à 20 ans.
Il y a aussi un autre aspect qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'on peut prendre des mesures, mais c'est extrêmement complexe. Imaginons que du jour au lendemain, par une belle inspiration, on dise, dans 5 ans, il n'y aura plus que des voitures électriques. Bon. Ça suppose quoi? Ça suppose que la technologie soit au point. Ça suppose que les chaînes de montage, dans 5 ans, soient capables de fournir la demande, c'est-à-dire le remplacement de tout le parc. Ça suppose qu'on sache quoi faire des voitures qui ont un moteur à explosion. Qu'est-ce qu'on en fait? On les détruit, on les recycle, on les... Bon. Donc, on ne peut pas, d'un coup d'une décision comme ça, résoudre un problème. Ça suppose que les garagistes soient formés pour réparer les voitures électriques qu'on va mettre sur la place. Ça suppose qu'il y ait des points d'alimentation, des prises électriques partout. Et ça suppose qu'on fournisse l'électricité, c'est-à-dire avec quelle énergie? Donc, tout est dans tout, tout est très imbriqué. Et cette complexité est incompatible avec une communication simple. Donc ça aussi concourt au fait qu'on met un petit peu la poussière sous le tapis.
Oui, c'est inconsciemment, c'est compliqué. Mais il y a aussi l'idée, et si on ne roulait plus en voiture? Ça éviterait d'avoir à faire des voitures électriques. Il n'y aurait plus qu'à décroître le parc de voitures. C'est-à-dire, au lieu de faire business as usual et mon niveau de vie n'est pas négociable ou à la marge, affirmé ou implicite, il y en a qui l'affirment froidement, hein, les Américains le disent froidement, le niveau de vie des Américains n'est pas négociable, nous disait M. Bush, ça c'était clair et net et affiché. En France ou dans les pays occidentaux, qui est prêt à baisser son niveau de vie sans retourner à l'âge de la pierre, hein. Les ambulances auront le droit de l'essence pour aller vous chercher, vous aurez le droit de prendre le train pour aller en vacances, mais c'est fini l'avion. Les voitures, l'idéal, c'est plus de voitures, ou le moins possible. Ce qui résout pour partie le problème de « il faut refaire tout un système technique pour produire des voitures électriques qui, si elles roulent à l'électricité carbonée, mettons comme en Allemagne, ou pire encore en Pologne sont des voitures qui roulent au charbon. Et si elles roulent au nucléaire, le nucléaire, c'est pas bien. Oui, mais l'électricité, il faut bien la finir de quelque part. Bon, alors, du coup, on fait quoi? Donc, on ne roule plus en voiture. Ce n'est pas en voiture à diesel ou à pétrole ou à ce qu'on veut. C'est on ne roule plus en voiture, disons, du tout ou beaucoup moins. Donc, il y a aussi, voilà, les contraintes, elles peuvent. Il y a toujours un cadre d'hypothèse. C'est ça qui est important. C'est que ça se met toujours dans un cadre d'hypothèse. Et des fois, il y a l'hypothèse qu'on ne dit pas, qu'on n'imagine pas, qui est implicite. Et oui, mais pareil qu'avant. D'ailleurs, tous les Français vont rouler en voiture électrique, mais ils vont rouler pareil. Oui, mais comme c'est des voitures électriques qui, finalement, sont moins polluantes, admettons que cette phrase ait un sens en France, admettons qu'on soit juste même, les gens disent, puisque c'est moins polluant, je peux rouler plus. Avant, je me restreignais un peu, quand même, faut pas déconner, je faisais attention. L'essence plus chère, ça fait faire attention. Mais je me restreignais un peu. Mais là, donc il pourrait y avoir aussi des effets de rebond, enfin des effets pervers, qui est parce que maintenant la voiture, j'ai une voiture électrique, c'est cool en France, en plus c'est du nucléaire, donc c'est propre. Enfin, l'électricité n'est pas carbonée, propre, on peut discuter, mais c'est pas carboné, donc vas-y, je roule plein pot et je fais plus encore qu'avant. Avec une voiture qui nécessite des matériaux spéciaux, qui nécessite d'être recyclée, qui nécessite des changements de batterie, qui nécessite, etc., etc. Sans parler du CO2 qu'il faut pour fabriquer la voiture, qui est un bakchich initial qui vaut quelque chose pour toute voiture et qui est particulièrement important pour une voiture électrique. Donc, c'est vrai, il y a à la fois l'aspect structurel général et il y a l'aspect aussi individuel, et les deux ne sont pas sans connexion. La difficulté du problème pour un physicien, lu par un physicien, mais ça n'apporte aucune réponse, ça constate juste que c'est le bordel, c'est un problème multi-échelle, à la fois temporel. Il y a une échelle de temps, il faut gérer des choses à l'échelle de, mettons, 40 ans. Et il faut prendre des décisions maintenant pour l'échelle de 40 ans. Mais maintenant, ça veut dire maintenant, puis demain, puis après-demain. Vraiment, des décisions quotidiennes, mais en pensant à une échelle de 40 ans. Donc on a une échelle de quotidienne, un jour, et l'échelle de 10 000 jours, 40 ans, 12 000 jours, les 40 ans. Et d'autre part, il y a des échelles, il y a une différence d'échelle spatiale. L'échelle individuelle, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que vous faites? Et puis l'échelle collective. Est-ce que les utopiales ont fait des efforts particuliers pour qu'ici, il y ait moins de CO2 quand les gens viennent? Est-ce que la ville de Nantes fait quelque chose? Est-ce que la région nantaise fait quelque chose? Est-ce que la France? Est-ce que l'Europe? Est-ce que le monde? On a l'échelle spatiale de l'échelle individuelle jusqu'à l'échelle collective, la plus grande, l'humanité dans son ensemble et la Terre entière. Et en physique, des problèmes multi-échelles, en astro, il y en a plein. Vous prenez une étoile comme le Soleil, il y a des phénomènes qui se déroulent en des fractions de secondes dans son cœur qui sont des réactions nucléaires. Et le Soleil, il a une durée de vie de 4 milliards et demi d'années. Est-ce que vous pouvez dignement simuler l'évolution du Soleil sur 4 milliards et demi d'années en faisant un calcul qui concerne les milliardièmes de secondes les uns après les autres? Est-ce que vous devez gérer à la fois la micro-échelle de la physique nucléaire au cœur du Soleil et en même temps le Soleil qui fait 700 000 km de rayon alors que les noyaux qui s'entrechoquent et fusionnent, ils sont à l'échelle du millionième de milliardième de mètre? C'est un problème typiquement embêtant, multi-échelle. Et quand c'est de la physique, c'est que des codes de calcul, et puis on approxime, et puis c'est bon, on publie quand même, et puis on arrive à comprendre des choses. C'est que du calcul, c'est que du jus de crâne sur une feuille ou dans un ordinateur. Ça va encore. Là, on parle sur autre chose. On parle d'organisation humaine. Ça a des coûts, de toute façon. Ne rien faire à un coût, faire quelque chose à un coût, à toutes les échelles de temps et à toutes les échelles d'espace. Et donc, c'est ça la grande complexité du problème. Elle est liée à ces différentes échelles de temps. Est-ce qu'on est capable d'avoir des actions qui vont transcender l'échelle de la durée de vie humaine? Moi, vivant, j'arrive à penser, maintenant que je suis vieux, je pense un peu à ma retraite. Quand j'étais plus jeune, je pensais à l'avenir de mes enfants. Mais c'est des perspectives, mettons, à 10 ans, j'y pense de temps en temps. Ce qui m'arrive à penser quotidiennement, là, je pense toutes les minutes, toutes les secondes, ce que je vais dire la seconde suivante. Je pense qu'après, j'ai une interview et que je voudrais voir le Hacker's Voice, enfin, la table ronde sur le hacker, sur le hacking tout à l'heure. Je pense qu'il faudrait que je dorme cette nuit parce que demain, j'ai encore un programme. Je pense que dans une semaine, je serai de retour au boulot, que je vais être en dépression nerveuse parce que j'aimerais bien aimer rester aux utopiales. Je pense, vous aussi d'ailleurs, etc. Donc, j'arrive à intégrer des échelles de temps différentes, mais pas en permanence. Là, il faudrait être capable de conduire un projet collectif, parce que ça ne s'envisage pas autrement que collectif, à partir d'un individuel. Donc, c'est un problème d'organisation, démocratie, coup de schlag, je ne sais pas. Un projet collectif à une échelle de temps qui transcende l'échelle de temps humaine. Ça veut dire là, il faut vraiment se projeter quotidiennement dans une échelle de temps longue qu'on ne fait jamais, pratiquement jamais, très rarement, très rarement. On pense à sa retraite, on pense à ses enfants. Ouais. C'est arrivé, les cathédrales, la Sagrada Familia peut-être, qui va finir un jour d'être construite, elle est encore un peu dans cette ambiance-là. Des grands projets scientifiques, le tunnel sous la Manche, la construction du CERN. Il y a des petites choses où on a réussi à faire ça. Mais ce sont des choses rares, ce sont des choses particulières et dans des étapes et dans des organisations spéciales. Est-ce qu'on peut faire ça sur ce problème-là? C'est la question du débat.
Je ne voudrais pas donner l'idée quand même qu'on est contre la démocratie parce que Dans les pays non démocratiques, c'est exactement la même chose. Hein. Ils ne sont pas plus motivés.
Hein. Oui, non, mais je voulais faire remarquer, c'est que, par exemple, l'Allemagne abandonne le nucléaire pour réemployer du charbon de façon massive, en particulier du lignite, qui est particulièrement polluant à tout point de vue. Enfin, il y a là un très gros problème. D'autre part, les États sont le seul niveau collectif où des décisions puissent être prises qui engagent l'avenir. Mais précisément dans les formes que nous leur connaissons, ils ne le font pas. En tout cas, ils ne sont pas du tout incités à le faire. Et ça, c'est grave.
Ils ne le font pas et des fois, ils font des choses contradictoires. On peut prendre les deux cas de l'Allemagne et de la France. Comme ça, ça réglera leur compte à ces deux-là. L'Allemagne sort du nucléaire et met massivement du photovoltaïque et de l'éolien. Donc, elle enlève, dans une société démocratique, techniquement avancée, hein, ce n'est pas les petits pays dans les coins, donc, alors que le nucléaire, ils maîtrisent. Ils enlèvent ça pour mettre de l'éolien et du photovoltaïque. Dans une situation, ils remplacent de l'électricité décarbonée par de l'électricité décarbonée. Donc, du point de vue climatique, c'est juste sans intérêt. On remplace de l'électricité carbonée par de l'électricité décarbonée, si on veut faire un effort au point de vue climatique. Donc on remplace son charbon par du photovoltaïque ou de l'éolien. En France, on motive beaucoup, on a dépensé 100 milliards d'euros pour installer, beaucoup moins que les Allemands encore, mais pour remplacer, pour intégrer le photovoltaïque et l'éolien dans la production électrique française, qui est essentiellement décarbonée à 98%, puisqu'on a beaucoup de nucléaire dans la production électrique, et d'hydroélectricité. So what ? C'est-à-dire, on s'en fout. Si on veut vraiment attaquer le problème climatique, mettons le pognon dans moins de voitures, moins polluantes, moins d'avions, moins polluants, des maisons mieux isolées. Là, il y a des trésors de gains en termes de production ou d'émissions, de réduction d'émissions carbonées. Donc, c'est des fois, on a l'impression un peu désespérant, parce que c'est bien pire qu'ils comprennent, mais ils ne veulent pas le faire, ou ils ne peuvent pas le faire, c'est on a l'impression qu'ils ne comprennent rien. Ou que plus exactement, ils font des choses qui sont orthogonales à ce qu'il faudrait faire. Et là, c'est pour ces deux-là. Mais après, il y a d'autres où ils vont vous expliquer. Alors, si on prend la Pologne, bah, eux, tout simplement, ils sont du charbon, ils sont assis sur un tas de charbon. Donc, pourquoi ils s'embêteraient à brûler des trucs pas clairs qui viennent d'ailleurs ? Ils n'ont qu'à brûler leur charbon qui est là. OK, pour se chauffer, en plus, on se les gêne un peu en Pologne de temps en temps. Et le charbon est un produit solide qui se transporte très peu, très difficilement. On n'exporte pas beaucoup de charbon. On exporte beaucoup de gaz naturel liquéfié. On exporte du pétrole par des tuyaux. C'est un liquide ou un gaz qu'on liquéfie. Ça se transporte facilement. Du charbon, c'est un produit embêtant deux fois parce qu'on ne peut pas le transporter facilement. Il faut le consommer où il est produit en gros, ce qui explique que les Anglais sont encore, à l'échelle des siècles, les plus gros émetteurs totaux de CO2 dans l'atmosphère. D'accord ? Parce qu'ils ont intégré ça depuis 1830, hein, eux, c'est... Donc, et il y a une époque du monde où c'était eux les rois du monde, vraiment les rois du monde, avec la moitié de l'énergie du monde en Angleterre pour leurs usines, à base de charbon. Donc c'est encore, vu la vitesse à laquelle vont les Chinois, ils vont passer en deuxième rang bientôt. Mais sur l'intégrale des émissions, c'est encore les Anglais. Donc le charbon, on l'utilise là où il est, on ne le transporte pas. C'est intensif en ouvrier. Il faut des gens qui creusent des trous. C'est du solide, ça se prend par blocs, ça se met dans des caisses et dans des trains, c'est la merde. Le pétrole, c'est liquide. On met dans un tuyau, on pousse à un côté, ça coule à l'autre bout. Il y a un type qui pousse à l'entrée, il y a un type qui vérifie à l'autre bout que ça se passe bien. Il y a deux types. C'est-à-dire que ça réduit beaucoup le problème de grève. Il y a toute une lecture aussi du passage du charbon au pétrole, une lecture politique qui est essentiellement, ça déblaye les mouvements sociaux, très puissants en Angleterre, parce que si les ouvriers du charbon s'arrêtent, tout s'arrête. Il n'y a pas d'alternative. Et ils sont indispensables pour extraire le charbon. Tandis que si les ouvriers du pétrole s'arrêtent, c'est deux types qui s'arrêtent et on en met un autre qui appuie sur le bouton pour faire la pression et le pétrole coule à l'autre bout, 3000 km plus loin. Donc le fait que le pétrole soit un liquide, l'état physique de l'objet est une importance qui est lue par certains auteurs historiens, notamment politiquement, sur on est passé du pétrole au charbon, pas parce que le pétrole est mieux, au sens énergétiquement mieux, ce qui peut être un peu le cas pour partie, mais on est passé du charbon au pétrole parce qu'on a comme ça pu remplacer beaucoup d'ouvriers nécessaires pour l'extraction du charbon par peu d'ouvriers loin dans les pays lointains où c'était comme ça, la merde était là-bas, qui transportent du pétrole, c'est-à-dire très facilement, ça coule tout seul, on met dans des bidons, on roule sur des bateaux, ou on met dans des tuyaux et ça va à l'autre bout. Donc, cette transition énergétique qui n'a jamais eu lieu, parce qu'il y a toujours eu empilement des couches énergétiques, il y a aussi des ressorts politiques derrière, de puissance, de pouvoir, de tel endroit sur tel endroit, de telle région sur telle région. Et donc, ça rend la chose encore plus compliquée. Le prix du pétrole ne dépend pas que de sa abondance. Il dépend aussi de déterminants éminemment géopolitiques. Donc, voilà, comme l'énergie en physique, c'est le nerf du changement, c'est le nerf de la transformation. En physique, l'énergie, ça quantifie votre capacité à faire des transformations. Vous avez beaucoup d'énergie, vous pourrez faire beaucoup de transformations. Vous n'aurez pas beaucoup d'énergie, vous ne ferez pas beaucoup de transformations. Le PIB, c'est des dollars par an. C'est les flux de biens et services par an. C'est les flux monétisés en dollars, en euros, en ce que vous voulez, des transformations que vous avez faites sur le monde. Dire que le PIB augmente, c'est dire que vous avez utilisé plus d'énergie pour le faire monter. Point barre. Vous pouvez toujours améliorer vos machines pour que chaque unité d'énergie soit plus efficace pour produire une unité monétaire. Mais au final, le PIB, c'est explicitement la valorisation de la consommation croissante d'énergie, parce qu'il faut qu'il croisse ce PIB, de la consommation croissante d'énergie, parce que c'est une transformation croissante du monde. Il y a une contradiction majeure dans un monde fini entre une croissance continue et des besoins infinis. Donc, il y a toutes ces choses-là, de la plus grande macro-échelle, je vais faire ma gueule maintenant, bien sûr Gérard, de la plus grande macro-échelle à la plus petite micro-échelle, à notre échelle à nous, mais moi si j'arrête ma voiture, so what, ça ne change rien, je suis un parmi beaucoup, ça ne change rien. Et il y a toute cette problématique-là de ces différents niveaux d'échelle à gérer qui est évidemment très compliquée.
Ce discours me rappelle, je te donnerai pas de soucis, ce discours me rappelle ce qu'on entendait à un certain moment où on parlait de l'an 01, de la croissance zéro. Quand je dis à un certain moment, c'était à la fin des années 60. Bon, vous en tirez les conclusions que vous voulez.
Ce que je voulais dire est un peu sorti de l'esprit, mais ça va m'en venir.
La parole.
Non, c'est que... Ah, zut. C'est que... Il faut bien voir que 2 degrés d'augmentation, c'est ça qui me paraît extrêmement important de comprendre, ça n'a pas l'air grand-chose. Moi qui vais en Bretagne régulièrement, je me dis que si le coin de Bretagne où je vais gagne 2 degrés, et la mer en particulier, si elle passe de 17 degrés à 19 degrés en été, tant mieux. Mais au niveau de la planète, c'est la catastrophe absolue à l'échéance de la fin de ce siècle. C'est-à-dire ce que vivront certains de nos enfants et certainement nos petits-enfants. C'est la catastrophe absolue pour une grande partie du globe. Ce sera peut-être très bien en Bretagne, mais en ce qui concerne l'Afrique, une grande partie de l'Asie, enfin la plus grande partie du globe, et Roland est certainement plus compétent pour en parler que moi, ce sera la catastrophe absolue. Or, dans le même temps, la démographie nous indique que l'Afrique pourrait compter 4 milliards d'habitants à elle seule à la fin du siècle. Alors vous voyez le problème, le croisement des problèmes.
Avant de donner la parole à la salle, je voudrais revenir un tout petit peu à la science-fiction. Et vous demandez si, puisque vous êtes semblé à peu près d'accord pour dire qu'on a un problème avec la structure actuelle, la démocratie, si en tant qu'auteur, vous avez joué avec... des spéculations sur de nouvelles possibilités, soit institutionnelles, soit démocratie. Je pense par exemple au Gambit des étoiles, où tu as exploré des façons d'attribuer le pouvoir de particulièrement original. Est-ce que tu avais en tête, ou est-ce que tu peux imaginer des solutions très spéculatives et très, très différentes de ce qu'on a aujourd'hui au problème actuel?
Dans un autre roman, j'ai imaginé la stochastocratie, c'est-à-dire le pouvoir distribué par le hasard. Non, mais dans une de mes nouvelles, La serre et l'ombrelle, j'imaginais qu'on déploie au-dessus, entre le Soleil et la Terre, une ombrelle solaire sous la forme de nombreux miroirs ou bien d'un seul immense miroir. C'est une solution qui a été envisagée, mais qui ne paraît pas très réaliste. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense le physicien.
Oui, ça ressort, c'est toujours des solutions extraordinaires, enfin,
voilà, pour la science-fiction.
Non mais extraordinaire, c'est pas pour être péjoratif avec elle, c'est des solutions incroyables, c'est-à-dire on fait de l'ingénierie planétaire. D'ailleurs, il y a des gens qui prônent pour faire de la géo-ingénierie, oui. C'est-à-dire manipuler la Terre à l'échelle globale pour finalement la re-terraformer, enfin éviter qu'elle se déterraforme. Si on reprend la terraformation comme l'ambition de la fiction, de transformer une planète comme Mars, par exemple, inhabitable par l'humanité, en un monde habitable par l'humanité. Donc là, on est en train de transformer notre monde actuellement habitable par l'humanité en un monde peut-être probablement inhabitable, en tout cas dans certaines régions, par l'humanité. Il faut arrêter ce processus, peut-être. Alors ça passerait par de la technique. Il y a un certain fantasme aussi dans l'idée que la technique résoudra le problème. Il y aura la nouvelle source d'énergie. Non. Il y a 4 interactions fondamentales. Toutes les sources d'énergie sont fondées sur ces 4 interactions fondamentales, que sont la gravité, l'eau tombe des montagnes, ça fait de l'hydroélectricité, que sont l'électromagnétisme, l'interaction chimique, la chimie, le pétrole, le gaz, le charbon et toutes les combustions en général, l'interaction nucléaire, nucléaire forte et nucléaire faible. Nucléaire faible, ça émet des neutrinos, on ne sait pas les arrêter. La Terre, 12 000 km de diamètre, est transparente aux neutrinos. Le Soleil, à 1 400 000 km de diamètre, est transparent aux neutrinos. Donc les neutrinos, ils vont nous passer comme ça, puis on ne va pas les arrêter facilement. Quant à l'interaction nucléaire forte, bah, ça s'appelle simplement la fission ou la fusion thermonucléaire, et la fusion n'est pas maîtrisée encore, pour dire le moins. La fission est maîtrisée, mais plein de gens disent que ça ne va pas, enfin que ce n'est pas ça qu'il faut faire, il faut passer à autre chose. Donc ce n'est pas une source d'énergie considérée comme légitime par défaut. Bon, alors après, une fois qu'on a fait tout ça, on récupère la lumière du soleil, c'est de la fusion nucléaire par défaut, c'est le soleil qui brûle pour nous, enfin, qui fait de la fusion pour nous. On peut récupérer le vent c'est des effets thermiques à la surface de la Terre, d'une façon ou d'une autre, c'est le rayonnement solaire. Et puis voilà, c'est marre, il n'y a pas la source d'énergie miracle, la pompe à électrons d'Asimov, où il sort un truc et puis whoop, ça fait une source d'énergie infinie et puis la vie est belle. Il n'y en aura pas, il n'y en aura pas. Après, c'est oui, la techno, on va faire des machines géniales qui ne consomment rien et qui font papa-maman. Et non, et non, justement, l'énergie, c'est ce qui permet de faire des choses. Si on veut faire beaucoup, il faut beaucoup d'énergie, il ne faut pas un peu d'énergie. On peut l'utiliser de manière optimisée, mais il y a aussi un truc qui s'appelle l'entropie, il y a un truc qui s'appelle la thermodynamique et qui vous dit que dans un cycle thermodynamique, on ne peut pas extraire autant d'énergie d'un tas donné. On ne prend pas comme ça pour s'en servir. Ce tas du pétrole, vos muscles en action sur un vélo ou je ne sais quoi, des atomes qui se désintègrent dans un échantillon d'uranium, eh bien, ces transformations, on ne peut pas extraire 100% d'énergie qui est émise. Il y a des processus de transformation qui font qu'on ne peut extraire au mieux qu'une certaine quantité. Et le reste, ça part ailleurs en entropie. Il y a cette idée d'exergie, l'idée de l'énergie qu'on peut utilement, sous-entendu, utilisablement pour nous humains extraire de la matière, et il y a la thermodynamique qui est là, et on n'aura pas raison contre les lois de la nature, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Mes étudiants à Sciences Po, le résumé du cours, il est là, je vous le donne, il existe des lois qui ne se votent pas à l'Assemblée et contre lesquelles vous n'aurez pas raison. Il n'y a pas de négociation avec la gravité, il n'y a pas de négociation avec les lois de la physique nucléaire. Donc une fois qu'on a compris ça, eh bien, il faut faire avec. Et on peut toujours imaginer des machines meilleures, les machines modernes, les moteurs à explosion modernes sont bien meilleurs que les moteurs à explosion plus anciens. On fait des tas de choses extraordinaires. Mais attendre de la solution technique qui va résoudre tout, bon, c'est d'une manière ou d'une autre se voiler un peu la face sur la situation réelle et être un peu en position de déni sur ce qu'il va falloir faire individuellement, collectivement, pour gérer la situation.
Je voudrais ajouter une chose que j'aurais dû évoquer tout à l'heure et qui m'inquiète énormément, c'est que dans ma fréquentation du milieu politique et aussi d'une partie de la haute administration, Enarc et compagnie, c'est leur extraordinaire ignorance scientifique, le défaut total de ces milieux de culture scientifique de base. Nous en avons eu des exemples ces dernières années avec François Hollande, qui l'a pratiquement avoué, mais les autres sont pareils. Il y a extrêmement peu de politiques et de hauts fonctionnaires, la plupart des énarques sont nuls sur le plan scientifique, et Dieu sait si j'en ai fréquenté dans mon existence. Et ça, c'est extrêmement grave, parce qu'ils font semblant de comprendre, mais ils comprennent au mieux au niveau de ce que fait un bon quotidien.
Oui, il y a eu des ministres de l'agriculture qui ont avoué ne pas savoir ce qu'était un hectare, en tout cas être incapable de le définir, des ministres pas si anciens que ça. Ministre de l'agriculture, incapable de définir ce qu'est un hectare. Un hectare, c'est un hectare. Ça fait combien de mètres carrés? Enfin, c'est quoi? Vous pouvez le dessiner, là? Non, ben non. Voilà. Bon, c'est quand même fâcheux. On peut toujours dire ils sont en situation de stress, ils sont devant la caméra et tout ça. Mais non, les choses qu'on connaît, les choses qu'on maîtrise, c'est ce que je dis à mes étudiants aussi. Maîtriser, ça veut dire, si votre vie en dépend, vous êtes vivant. Ce ministre ne maîtrise pas ce que c'est un hectare. Par contre, il maîtrise la communication politique. Vous avez piqué dans la caisse. Mais non, c'est un... Il a une... Voilà. Il arrive à répondre des choses que, alors que vous, on vous dit ça, vous suez, vous rougissez, et on sait que vous êtes coupable. D'accord ?
Et il y a un autre, j'ai oublié qui, mais qui avait reconnu qu'il ne savait pas faire une règle de trois.
Voilà. Exactement. C'est, ils sont... Bon, donc du coup, ça pose une question. Donc du coup, si on revient dans la science-fiction et cette stochastocratie, il y en a qui ont proposé de faire une démocratie, mais où les représentants du peuple sont, pour partie, pour commencer, mais tirés au hasard dans la population. Et donc là, forcément, on aurait la bonne proportion d'hommes et de femmes dans l'Assemblée nationale, on aurait la bonne proportion de chauves et de barbus et de lunettes et de tout ce qu'il faut, d'idiots et d'intelligents, de scientifiques et de plombiers, enfin... On aurait une représentation réelle avec des gens, alors évidemment, ignorants, mais le sont-ils vraiment plus que ceux qui nous gouvernent sur certains aspects techniques ? Avec cela, la conscience qu'ils sont ignorants. Voilà. Parce que je pense que parmi vous, si on vous dit vous, vous connaissez de la science, à moins que je tombe par hasard sur quelqu'un qui en sait, il va me dire oh ben non, il va l'avouer. Alors que si c'est un haut fonctionnaire, un énarque, un chef, il dira eh bien sûr. Enfin, en tout cas, il ne l'avouera jamais comme ça. Donc, au moins, les gens du quotidien, le lambda, la ménagère de moins de 50 ans, elle est sachante qu'elle est ignorante. Et du coup, elle va réfléchir peut-être un peu. Alors après, bon, il faut qu'on soit plusieurs à réfléchir. Je ne sais pas si de beaucoup d'esprit sort la lumière, mais en tout cas, ça peut peut-être éviter les plus grosses bêtises.
Je vais formuler ça sous la forme d'une question au public. Si vous aviez une appendicite, choisiriez-vous d'être opéré par un énarque de base ?
Est-ce qu'il y a dans le public quelqu'un qui est conscient de son ignorance ?
Pour faire un budget, un chirurgien, ce ne serait pas terrible.
Oui, bien sûr. Oui, il faut savoir compter quand même.
Bonjour. Alors, moi, je voulais juste revenir, en fait, sur, de façon purement pragmatique, en fait, sur la question des voitures qui a été évoquée, des véhicules et des transports en commun. Pour citer un exemple qui, je pense, est assez commun, enfin, bon, c'est le sud-est de la France, mais c'est commun à la majorité des régions françaises, hors région parisienne, c'est qu'il y a eu des politiques publiques pendant des décennies pour développer la voiture individuelle au détriment des transports en commun, et notamment des chemins de fer, et des voies de chemin de fer et des gares qui ont été vendues, et qui fait qu'il y a énormément d'endroits actuellement en France où, si on n'a pas de voiture, on ne peut pas se déplacer. C'est vraiment impossible. Et donc les gens ont besoin de véhicules individuels parce que les politiques publiques ont fait que c'est devenu une nécessité. Alors, et qu'on a supprimé ensuite les voies de chemin de fer, les systèmes de transport en commun, même de bus, parce que ce n'était pas rentable. Est-ce que le problème, au final, contrairement à ce que vous avez dit au début, est-ce que c'est vraiment la démocratie ou est-ce que c'est pas plutôt l'obsession de rentabilité qui caractérise, et de profit aussi, plus que de rentabilité encore, qui caractérise nos sociétés actuelles et justement le capitalisme. Enfin, est-ce qu'à un moment, il ne faudrait pas réfléchir à concrètement quel modèle de société on veut et est-ce qu'il faut absolument développer le profit pour, au risque de tous mourir ou est-ce qu'il ne faut pas dire à un moment stop, on s'arrête, on réfléchit ?
Bon, j'ai travaillé personnellement autrefois sur les voies ferrées, en particulier sur les voies ferrées très peu utilisées, dont on a supprimé d'ailleurs beaucoup et il faudrait continuer à le faire. Pourquoi ? Parce que quand on regarde précisément leur budget écologique, il est catastrophique. Il ne faut pas croire que, d'abord, ce ne sont souvent pas des voies ferrées électriques, et ensuite, même quand elles sont électriques, il est catastrophique à partir du moment où elles ne transportent personne. J'ai contribué à faire supprimer des trains où il y avait 6 trains. Il y a 30 ans de ça, hein, il y a prescription, vous ne pouvez pas me condamner.
Il y a 30 ans, non.
Mais il y avait 6 personnes qui les utilisaient par semaine, alors qu'il y avait 3 trains par jour. Bon, et c'est encore le cas. Ce sont des hommes politiques qui s'opposent à la suppression de lignes qui sont de véritables catastrophes. Alors, il faut pas croire que le voie ferrée en tant que telle, ça se calcule. Il faut demander à des professionnels, soit de l'économie, soit de la technologie, soit ce qui convient de faire. Hein. Mais ce n'est pas le point de vue des hommes politiques. Je veux ma gare à tel endroit. Ça, c'est pas bon.
Oui, c'est un peu l'illustration de ce que j'évoquais tout à l'heure. Effectivement, à un moment donné, on a pris une option, qui était une option politique, de choisir un service public qui soit, sinon rentable, il ne l'est toujours pas, mais au moins dont on atténue les coûts. Bon. La conséquence de ça, c'est effectivement qu'on développe le déplacement des gens par automobile pour aller travailler. On ne s'est pas posé la question de savoir s'ils avaient besoin de se déplacer pour travailler. Si ce qu'il fallait développer, ce n'était pas le télétravail. Là, on est... Et pourquoi ? Non, attendez. On ne s'est pas posé la question. Pourquoi ? Parce que la technologie, à l'époque où les options ont été prises, n'était pas encore suffisamment développée pour que ce soit possible. Moi, j'ai travaillé, j'ai fait du télétravail, des téléconférences à peu près à cette époque-là. J'aime autant vous dire que j'en ai été dégoûté à vie. Hein. Il y avait des vitesses de transmission qui étaient nulles, on n'arrivait pas à se connecter, c'était l'horreur. Donc, c'est l'illustration de ce que je disais quand je parlais de complexité, c'est-à-dire que vous touchez un secteur, mais en fait, ça impacte une totalité de secteurs. Il faudrait avoir une hauteur de vue énorme. Et là, bon, c'est là où les prospectivistes, justement, sont utiles. Et, bah oui, mais c'est justement d'essayer de voir quels sont les impacts sur tous les secteurs. On pourra utiliser l'agriculture de la même façon. À un moment donné, on a promu l'agriculture, on a remembré, on a défait toutes les haies, on s'aperçoit 30 ans après que y a des conséquences écologiques catastrophiques. N'empêche que ça a répondu à un moment donné à un problème qui se posait et que simplement on n'a pas pris en compte effectivement suffisamment les conséquences.
Oui, c'est vrai que juste pour aller dans le, enfin pour aller dans le sens, mais pour vous conseiller à tous et peut-être à cette jeune dame une bonne lecture, lisez Carbon Democracy. Il a peut-être été traduit en français. Lisez-le, vous allez voir plein de choses qui vous intéressent. Avec l'idée, la critique, on appelle cette ère actuelle l'anthropocène, l'ère de dire que l'humanité est responsable. Et il y a tout un argumentaire sur un chapitre très bien fait que je ne vais pas développer maintenant pour laisser la place à la question. Cette ère ne doit pas être appelée anthropocène, mais capitalocène. Ce n'est pas l'humanité dans son ensemble qui est responsable du merdier ambiant. C'est très exactement au début ou au milieu des années du 19e siècle, des possesseurs puissants et capitalistiquement importants en Angleterre qui ont développé tout ce mécanisme-là et qui l'ont mis et développé dans l'Empire anglais et dans le monde entier. Et voilà. Donc c'est le capitalocène dont il est question. Je vous fais référence à Carbone Démocratie, qui est un excellent livre pour voir tout l'argumentaire très détaillé autour de ça.
Oui, bon, ça marche, oui. Bonsoir. Ma question sera peut-être un peu caricaturale, mais si l'Occident refuse d'organiser une récession de façon à faire baisser le PIB et donc la consommation d'énergie fossile, c'est combien de milliards de morts sur la planète ?
Combien de milliards de ?
De morts sur la planète. Parce que si la planète devient invivable, j'imagine qu'il va y avoir des millions, des centaines de millions, voire je ne sais pas quoi, combien de milliards de personnes qui vont vouloir aller dans des endroits où les gens qui y sont ne vont pas vouloir les recevoir.
Alors, c'est pas seulement l'Occident qui est en cause. Personne ne se bat pour devenir plus pauvre. Bon. En fait, effectivement, ça aura des conséquences. Et ça aura des conséquences, je pense, au niveau civilisationnel. Ce qui est un jour ou l'autre sera remis en cause, c'est le mode de vie que nous connaissons. Mais pour autant, je crois que personne n'est prêt aujourd'hui à dire « je renonce à mon mode de vie » du jour au lendemain, et je retourne aux conditions du XVIIe siècle. Donc, il faut trouver d'autres solutions.
Ça se fera de toute façon. Dans un monde fini, quand il n'y a plus rien, soit vous choisissez de le consommer moins pour durer plus longtemps, de le consommer moins ou moins rapidement, soit ça se consomme à la vitesse que vous avez choisie, et puis à la fin, il n'y en a quand même plus. Donc, d'une façon ou d'une autre, il y aura une réduction qui sera volontaire et éventuellement pilotée, soit une réduction qui sera non volontaire et du coup non pilotée et probablement brutale. Mais il y aura une réduction, c'est-à-dire une fonction qui est nulle à moins l'infini. Mettons la quantité de pétrole extraite de la Terre, il y a un million d'années, c'était zéro. Dans un million d'années, ça sera zéro aussi parce qu'il n'y en aura plus. Une fonction positive, l'extraction de pétrole, c'est une quantité positive de pétrole ou de ressources, de ce que vous voulez, de minerais, de charbon, de ce que vous voulez, qui est... Ça, c'est un terme mathématique, une fonction qui est nulle à l'infini, moins l'infini, nulle à plus l'infini, strictement positive, elle passe par un maximum absolu. Et à partir de ce maximum, elle ne passe plus jamais par une altitude aussi élevée. Et donc la façon dont elle décroît, elle est pilotable si vous prenez des mesures, sinon elle se fera et vous retomberez à zéro, à plus l'infini. De toute façon, la question c'est de savoir comme ça ou en essayant de gérer le truc au moins mal pour éviter les catastrophes dont vous faisiez l'écho.
Je pense qu'on peut surtout consommer mieux et conserver à peu près nos niveaux de vie en diminuant considérablement nos consommations d'énergie et de matières premières. Hein, je crois que c'est dans cette direction-là que se trouve la solution. Enfin, c'est la solution, il n'y a pas véritablement de solution, mais... dans la plupart des domaines, dès qu'on étudie un peu, on s'aperçoit que le gaspillage est gigantesque. Il tombe rarement en dessous de 30%. Rarement en dessous de 30%. Et souvent, il atteint 50% et plus. Donc, il y a de la marge de ce côté-là, sans que ça change rien aux habitudes ordinaires, enfin, etc.
Enfin, ça change l'idée que, par exemple, si on supprime froidement la publicité à l'échelle du monde, les 100 milliards et quelques dépensés par an, on peut les orienter vers d'autres tâches plus utiles. Je ne parle même pas des budgets militaires, mais enfin, mettons ça. Et une fois que cet argent est réorienté, comme il n'y a plus de publicité, il n'y a plus l'incitation permanente de remplacer le truc que vous avez qui fonctionne bien mais qui est moins chic que le nouveau truc qui vient de sortir en permanence. Donc il y a aussi l'idée, il y a aussi à développer une manière d'éthique vers les objets. Cet objet est précieux, c'est quand même un scandale d'avoir fait une bouteille en eau qu'on va jeter une fois qu'on l'aura bu. Et si jamais je ne la finis pas et qu'elle traîne là, quelqu'un va la prendre et va la jeter avec de l'eau dedans encore. Enfin, je veux dire, il y a une manière de scandale automatique devant moi. Il faudrait apprendre à aimer les objets qu'on utilise, en sens en être responsable, à être responsable de ces objets et de leur donner la vie la plus longue possible, la meilleure possible pour ces objets, qui sont des êtres inertes. Je ne parle même pas d'une vache ou d'un cochon ou d'un mouton ou d'un chat. Donc voilà, il y a vraiment cette question-là de l'objet ou des objets techniques qu'on utilise. Ça passe par la publicité, le remplacement, la consommation, le consumérisme, le capitalisme, enfin plein de choses. C'est une révolution. Par quelques bouts qu'on l'apprenne, on aboutit toujours un peu au même niveau. Le niveau de vie occidental moyen est non soutenable. Non soutenable.
Je suis navré de devoir interrompre le débat. Je vois qu'il y a beaucoup de questions encore. C'était un débat passionnant. Mais malheureusement, il va falloir rendre la salle pour la table ronde suivante. Je voudrais vous remercier encore tous pour votre participation. Et